France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Alexandre Billard, Valentin Bobinet et Olivier Dehaye. Voici la deuxième émission de notre série consacrée à la vie de Napoléon Bonaparte en musique. Nous évoquions hier les premières années de la Corse au consulat, autrement dit Bonaparte au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ce sera du consulat à l'Empire, 1800-1804 et même 1805 avec Austerlitz. Nous entendions hier la création de Joseph Haydn, des Schöpfung, que le consul Bonaparte s'apprête à écouter à l'Opéra de Paris. Il est invité par Joséphine à se rendre à l'Opéra pour entendre cette nouvelle partition. Mais sur le chemin, en passant par la rue Saint-Nicaise, ils sont victimes d'un attentat, une bombe, ou comme on disait jadis, une machine infernale, installée par des royalistes, explose en faisant plusieurs morts, plusieurs blessés. Napoléon et Joséphine en réchappent par miracle. La répression va s'abattre sur de nombreux adversaires du futur empereur. Et ses partisans chantent cette complainte, récemment enregistrée par les Lunésiens, dirigée par Arnaud Marzorati.
Ein großes deutsches Volk sind wir, sind mächtig und gerecht. Ihr Franken, das bezweifelt ihr.
Ça, c'était du Beethoven que l'on va entendre juste après. La machine infernale a mis du temps à exploser, alors la voici tout de suite sur France Musique.
Exercé contre l'État, Bruniquez au carousel. De ce fait, la vérité fit trembler l'humanité. Une machine infernale, de nouvelles inventions. Si par son explosion un dégât que rien n'égale, renversant aux environs les hommes et les maisons. Le consul dans sa voiture, à l'instant passé par là, à lui chose sûre qu'on voulait donner la mort, mais ce fut un vain effort. De ses chevaux la vitesse avait devancé le coup, mais s'arrêtant tout à coup de sa Trees. au premier consul. Une machine semblable est saisie entre les mains de ces monstres inhumains, dont l'intention coupable pour prolonger leur forfait est de reculer la paix.
Discours des présidents des autorités du gouvernement.
Quand des monstres pleins de rage veulent renverser l'État par le feu, l'assassinat, le désordre et le carnage, nous punirons leur forfait pour accélérer la paix.
Sainte Hélène, la légende napoléonienne. Voilà le titre de ce disque qui vient de paraître chez Museau. Les Lunésiens et les cuivres romantiques dirigés par le baryton Arnaud Marzorati ont enregistré plusieurs chants favorables ou hostiles à Napoléon, dont certains sont interprétés par Sabine de Vielle, avec notamment cette machine infernale, l'évocation de l'attentat le 24 décembre 1800 dans la rue Saint-Nicaise. Napoléon s'apprêtait à entendre la création de Joseph Haydn, qui a été très critique à l'égard de l'empereur, on l'a entendu hier, mais Napoléon recevra quand même en 1802 quelques-uns des quatuors à cordes de Haydn sur une partition dédicacée au premier consul Buonaparte. Alors avec son tempérament bouillonnant, le jeune Beethoven voulait absolument commencer cette émission. On entendait un tout petit extrait tout à l'heure d'un Lied de 1797 qui témoigne de l'hostilité d'une grande partie de l'Europe contre Napoléon Bonaparte. Ce Lied, c'est Kriegslied der Österreicher, chant de guerre de l'Autriche, ni pour la gloire, ni pour la solde, mais pour la paix, nous bataillons.
Ein großes deutsches Volk sind wir, sind mächtig und gerecht. Ihr Franken, das bezweifelt ihr Franken kennt uns schlecht. Denn unser Fürst ist gut, erhaben unser Mut, süß unsere Traubenblut. Und unsere Weiber schön, wie kann's uns besser gehen? Wie kann's uns besser gehen?
Wie kann's uns besser gehen? Wie kann's uns besser gehen?
Wir streiten nicht für Ruhm und Sold, nur für des Friedens Glück. Wir kehren arm an fremdem Gold zu unserem Heer zurück. Den guten Bürger nur blüht Segen der Natur. Auf Weinberg, Wald und Flur gerecht ist unser Krieg. Uns gehört der Sieg, uns gehört der Sieg.
Le baryton Hermann Prey et le chœur Heinrich Schütz-Kreis chantaient ce chant de guerre d'Autriche qu'un Beethoven de 27 ans avait composé sur un poème de Joseph Friedelberg qui a donné à Beethoven un autre texte de cette veine, un chant d'adieu aux citoyens de Vienne. Beethoven, nous y reviendrons plus tard dans cette émission. Alors depuis le coup d'état du 18 Brumaire, Bonaparte a renversé le directoire, il a instauré un consulat. De premier consul, il devient consul à vie, réorganisant les finances, la justice, l'administration, créant la Légion d'honneur, la Banque de France, promulguant le Code civil, signant le Concordat avec l'Église, amnistiant les émigrés, mais faisant assassiner le duc d'Enghien pour punir les royalistes, et surtout rétablissant en 1802 l'esclavage que la Révolution avait partiellement abrogé, comme en témoigne cette chanson « La liberté des nègres » de 1794, chanson sur un air tiré d'un opéra de François de Vienne et ici chanté par le ténor Gérard Friedmann.
Le saviez-vous, républicain, quel sort était le sort du nègre? Qu'à son rang parmi les humains, un sage décréré intègre, il était esclave en naissant, puni de mort pour prend ce geste. On vendait jusqu'à son enfant le sucre éteint de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste. De vrais bourreaux altérés d'or promettant d'alléger ses chaînes faisaient pour les serrer encore des tentatives inhumaines. Mais contre leur complot pervers, c'est la nature qui proteste. Et deux peuples brisant leur fer ont, malgré la distance des mers, fini par s'entendre de reste. Fini par s'entendre de reste. Américains, l'égalité vous proclame aujourd'hui nos frères. Vous aviez à la liberté les mêmes droits héréditaires. Vous êtes noirs, mais le bon sens repousse un préjugé funeste. Seriez-vous moins intéressant aux yeux des républicains blancs? La couleur tombe et l'homme reste. La couleur tombe et l'homme reste.
Réalisé dans les années 50 à Haïti, pas boire, pas manger, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, chanson créole que l'on peut entendre parmi des dizaines d'autres sur un coffret de 3 CD intitulé Musique issue de l'esclavage aux Amériques, coffret publié en 2014 chez Frémo avec le musée du Quai Branly, préface de Christiane Taubira qui revient bien évidemment sur ce rétablissement de l'esclavage en 1802. Alors comme je le disais hier, nombre d'historiens souhaitent disculper Joséphine de Beauharnais, enfant d'un Martinique, issue certes d'une propriété, famille propriétaire d'esclaves et dont la statue sur cette île a été décapitée puis récemment détruite. Napoléon ne souhaitait pas du tout plaire à la famille de Joséphine, que c'était plutôt de reconstituer un empire français fondé en partie sur l'esclavage, soumis à un lobby esclavagiste dont faisaient partie Talleyrand et Cambacérès, qui ont eu plus d'influence que Joséphine. Mais la question reste en débat sur les origines de cette décision tragique, qui plus est erreur stratégique pour Napoléon, qui verra la révolte puis l'indépendance de Saint-Domingue devenue Haïti. Alors à cette époque, Henri-Jean Rigel, pianiste particulier du Consul, écrit cette sonate romantique qui nous fait revenir à Paris.
Thank you.
1802, le consul Bonaparte avait organisé la chapelle consulaire sur le modèle de l'ancienne chapelle royale et s'était doté d'une musique particulière pour ses séjours aux Tuileries, avec par exemple Henri-Jean Rigel, ancien membre du concert spirituel qui a suivi Bonaparte pendant la campagne d'Égypte, quelques mois était directeur du théâtre français du Caire avant d'être nommé pianiste de la musique particulière de Napoléon en 1804, époque où ce grand pédagogue, futur professeur de César Franck, avait écrit cette sonate de Henri-Jean Rigel, jouée ici par Pascal Bonnier.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
De tous les beaux-arts, la musique est celui qui a le plus d'influence sur les passions, celui que le législateur doit le plus encourager. un morceau de musique morale et fait de main de maître, touche immanquablement de sentiments et a beaucoup plus d'influence qu'un bon ouvrage de morale qui convainc la raison sans infiltrer sur nos habitudes. Voilà ce qu'écrivait en 1797 Bonaparte aux inspecteurs du très récent Conservatoire de musique de Paris, récemment créé. Donc, Bonaparte fait également appel pour cette chapelle consulaire que j'évoquais à son compositeur préféré que nous évoquions hier, Giovanni Paisiello, dont l'opéra de 1790, La Molinara, avait obtenu un grand succès à Vienne, un grand succès en Europe, attirant notamment l'attention du jeune Beethoven. Sur France Musique, c'est la voix de Montserrat Caballé que nous entendions accompagnée par le pianiste Miguel Zanetti dans cet extrait de l'opéra La Molinara de Giovanni Paisiello, compositeur préféré de Napoléon Bonaparte, Nel cor più mi sento, un air qui fera l'objet de 6 variations écrites en 1795 par Beethoven et ici joué par Alfred Brendel. Thank you. Alfred Brendel jouait ainsi en 1990 les variations que Beethoven avait écrites deux siècles auparavant, en 1795, sur le thème « Nel cor più mi sento », extrait de la Molinara de Giovanni Paisiello, des variations qui témoignent du succès de cette musique qu'aimait tant Napoléon, un thème qui fera également l'objet plus tard de variations pour violon de Paganini. Napoléon écoute donc de l'opéra italien, mais ces soldats, ces grognards ont des goûts un peu plus rustiques, comme en témoigne ce tube de la Grande Armée, la chanson de l'oignon.
J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, 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 opa. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous change en lion. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous change en lion. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa camarade, opa. Opa camarade, opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa.
Et pas d'oignon aux Autrichiens,
non pas d'oignon à tous ces chiens. Et pas d'oignon aux Autrichiens, non pas d'oignon, non pas d'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa.
Aimons l'oignon frit à l'huile, aimons l'oignon car il est bon.
Aimons l'oignon frit à l'huile, aimons l'oignon, aimons l'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, camarade, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, camarade, opa, opa, opa.
Après la chanson de l'oignon interprétée par le quatuor de la cité, c'était la marche de la garde consulaire à Marengo par la garde républicaine, interprétée donc par cet orchestre militaire pour évoquer une victoire de 1800.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Victoire du 14 juin 1800 de Napoléon sur le Saint-Empire romain germanique à la bataille de Marengo dans le Piémont, épisode qui est évoqué par un cheval, puisque Marengo c'est le plus célèbre cheval de Napoléon, qui dont le squelette d'ailleurs est conservé dans un musée de londonien, le musée de l'armée nationale, et ce squelette sera reconstitué au musée de l'armée au-dessus du tombeau de Napoléon aux Invalides pour une exposition qui s'ouvrira quand les lieux culturels rouvriront. Alors cette bataille de Marengo, elle est évoquée dans l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, c'est la Tosca de Puccini, c'est Tosca même tout court, sur un livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, dans lequel le peintre Mario Cavaradossi protège un partisan de Napoléon, un partisan italien de Bonaparte, Angelotti, échappé d'une prison romaine en le cachant dans une église. La fuite d'Angelotti est signalée par un coup de canon.
Thank you. subito!
Apprestata per il Tedeum! Tu resta!
Io mi muovo!
E tu va, ruga ogni angolo! Raccogli ogni traccia!
Sta bene!
Occhio alle porte!
Bonaparte scelerato, Bonaparte est un scélérat, déclare le sacristain qui rêve de la défaite du consul dans cet extrait de Tosca de Puccini, tandis que le chef de la police Scarpia exige à l'instant le calme dans cette église romaine où Mario a caché un partisan de Bonaparte, Angelotti. Herbert von Karajan dirigeait l'orchestre de l'Opéra de Vienne avec Giuseppe Taddei en Scarpia, Giuseppe Di Stefano en Mario et Carlo Cava en Angelotti. Bonaparte Vittorio à Marengo, voilà une nouvelle qui va réjouir Mario, prisonnier de Scarpia, torturé devant sa bien-aimée Tosca, ici chantée par Leontine Price. Buonaparte e vincitori, Bonaparte et vainqueur.
Favelliamo entrare.
Bonaparte est victorieux à Marengo. Victoire, l'aube de la vengeance se lève pour écraser les méchants, la liberté revient, les tyrans tremblent, s'écrie Mario, alias Giuseppe Di Stefano. Maintenant je me réjouis dans ma souffrance, déclare ce bonapartiste dans cet extrait de Tosca de Puccini, avec Leontine Price en Tosca et Giuseppe Taddei en Scarpia, l'orchestre de l'Opéra de Vienne dirigé par Herbert von Karajan. Les victoires de Bonaparte dans ces guerres d'Italie sont décisives. Elles leur permettront d'agrandir son pouvoir à Paris, devenant consul à vie en 1802. Un grand homme, selon Beethoven, qui dédie à Bonaparte sa troisième symphonie, l'Héroïka, une dédicace qui sera plus tard déchirée.
Thank you.
Sinfonia Grande intitolata Bonaparte. Tel était le premier intitulé de la troisième symphonie de Beethoven, symphonie héroïque, dont nous écoutions le troisième mouvement Scherzo avec l'orchestre symphonique de Helsingborg dirigé par Andrew Manze. Le nom de Bonaparte sera, alors non pas déchiré, comme je l'ai dit un peu abusivement, mais raturé par Beethoven en 1804 à l'annonce du sacre de l'empereur Napoléon Ier. Ce n'est donc rien de plus qu'un homme ordinaire, aurait déclaré Beethoven. Maintenant, il va fouler aux pieds tous les droits de l'homme. Il n'obéira plus qu'à son ambition. Il deviendra un tyran, aurait-il déclaré selon témoignage de Ferdinand Ries. Napoléon, sacré le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris, au son de cette marche de Jean-François Le Sueur, futur professeur de Berlioz, qui est d'ailleurs Berlioz venu au monde un an plus tôt, en 1803. Jean-François Le Sueur qui remplace Paisiello comme maître de chapelle, le sacre de Napoléon Bonaparte, comme si vous y étiez sur France Musique. Le tableau est un des plus célèbres du musée du Louvre, un des plus célèbres de France, un des plus célèbres au monde. 9,80 m de long, 6,20 m de hauteur. Sa monumentalité est à la mesure de l'événement qu'il représente. C'est le sacre de Napoléon qu'on peut voir donc au Louvre, que le peintre Jacques-Louis David réalise de 1805 à 1807, immortalisant l'instant précis où l'empereur, debout, brandit une couronne devant Joséphine agenouillée. Il tourne le dos à un pape Pie VII grisâtre, entouré d'une assemblée de têtes couronnées dans l'enceinte de la cathédrale de Paris, avec notamment la mère de l'empereur, Laetitia, qui n'était pas présente ce jour-là, mais Napoléon a tenu à sa présence sur le tableau. Donc le 2 décembre 1804, on entend cette marche du sacre de Jean-François Le Sueur, ici jouée par l'orchestre de la Capella de Saint-Pétersbourg, dirigé par Vladislav Tchernouchenko, une musique triste comme la gloire, aurait dit l'empereur. Napoléon, surnommé par ses ennemis l'ogre ou l'usurpateur, construit un pont au-dessus de la Révolution en admirateur de Charlemagne et de Louis XIV. Dans le domaine de la peinture, Antoine Gros, élève de David, réalise Bonaparte au pont d'Arcole, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, la bataille d'Aboukir, le champ de bataille d'Eylau. François Gérard réalise les portraits de la famille impériale. Plus tard, Géricault va immortaliser des scènes de guerre. Et puis bien sûr, David avec ce sacre, mais aussi avec Bonaparte au mont Saint-Bernard, la distribution des aigles et un fabuleux portrait inachevé conservé au Louvre. Pour la sculpture, c'est Antonio Canova qui célèbre Napoléon tenant la victoire, ou encore Antoine-Denis Chaudet, qui réalise le fameux Napoléon en César au sommet de la colonne Vendôme. Pour la littérature, eh bien c'est différent. Napoléon aura pour lui la petite littérature, celle des besogneux flagorneurs, et contre lui, la grande, celle de Chateaubriand. Je parle de ses contemporains. Quant à la musique, eh bien Napoléon tenait à contrôler la politique musicale française, en particulier la programmation de l'opéra. Mais le conquérant Napoléon se met à dos les plus grands musiciens de l'époque, les Haydn, les Beethoven, Schubert et autres Weber. Qu'importe, il préfère, nous le disions, Paisiello, qui écrit la messe du sacre.
Napoléon, 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 Napoléon,
Domine salvum fac imperatorem Napoléonem, Seigneur, assure ta protection à notre empereur Napoléon. Voilà ce qu'il est dit dans cette messe du sacre de Napoléon Ier, musique de Giovanni Paisiello, chantée par Gérard Dunant, avec Armand Birnbaum, dirigeant l'association chorale Contrepoint.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
J'évoquais en 1804 la dédicace à Bonaparte de la 3e symphonie de Beethoven, dédicace raturée. Cette année-là, 1804, Beethoven entame la composition de son opéra Fidelio sur un livret de Joseph Zornleitner, d'après un texte français de Jean-Nicolas Bouilly, Léonore ou l'amour conjugal, récit d'un travestissement en homme, d'une héroïne voulant sauver son bien-aimé des geôles d'un tyran. L'œuvre est créée le 20 novembre 1805 à Vienne, au Théâtre an der Wien, dans des circonstances absolument catastrophique pour Beethoven. Les Français sont entrés dans la ville depuis 10 jours. 15 000 sont emmenés par Murat et par Lannes. Les spectacles, les bals, les dîners sont alors annulés. On ferme les théâtres. Sauf cette création attendue depuis plusieurs semaines. L'empereur, que Beethoven a peut-être aperçu de loin, l'empereur a quitté Vienne le 16 novembre après 2 nuits à Schönbrunn. Et la création se fait certes devant Luigi Cherubini, nommé directeur des concerts à Vienne par Napoléon. Il y a certes quelques amis de Beethoven, mais il y a surtout un parterre d'officiers français fatigués des combats et ne comprenant pas un traître mot de cette partition de l'allemand. C'est le bide total, malgré des pages de toute beauté, comme ce chant de l'espoir, ici interprété par la regrettée Christa Ludwig.
Thank you.
Comme Hoffnung vient Espérance, extrait du premier acte du Fidelio de Beethoven, chanté en 1962 par Christa Ludwig, avec l'orchestre Philharmonia dirigé par Otto Klemperer. Alors revenons sur le théâtre des opérations. Les Autrichiens, en 1797, avaient dû signer le traité de Campo Formio avec le général Bonaparte. Eh bien, les voici de nouveau confrontés au bouillant Corse, cette fois-ci empereur des Français. Napoléon se fait le plus beau des cadeaux pour le premier anniversaire de son sacre. 2 décembre 1805, c'est la bataille des Trois Empereurs dans une petite localité de Moravie, près de Brno, dont le soleil va éclairer de nouveaux feux le mythe napoléonien. Il s'agit bien sûr d'Austerlitz, victoire de Napoléon sur les deux autres empereurs, Alexandre Ier de Russie et François II d'Autriche. Napoléon qui déclare « Soldat, je suis content de vous » à l'issue de cette victoire, célébrée par une marche encore souvent jouée dans les régiments français, la marche d'Austerlitz, ici jouée par le 43e régiment d'infanterie de Lille.
We'll be right back.
c'est le pianiste Daniel Proper que nous entendions dans une sonate de Louis-Emmanuel Jadin intitulée « La grande bataille d'Austerlitz » et dédiée, je cite, à son Altesse impériale Monseigneur le Prince Joseph, grand électeur de l'Empire. Joseph, c'est le frère aîné Joseph Bonaparte qui fut roi de Naples puis roi d'Espagne. Voilà une partition de musique descriptive avec introduction, roulement de tambour. Le troisième mouvement qu'on vient d'entendre, c'était « L'empereur des Français voulant faire cesser le carnage ». Et puis le final, c'est « Trompette pour rallier les troupes françaises ». Cette bataille d'Austerlitz, qui a donné son nom à une gare parisienne, est évoquée dans « Guerre et paix » de Tolstoï, et également dans « La femme de 30 ans » de Balzac, dans « L'aiglon » de Rostand, et puis dans le film « Austerlitz » d'Abel Gance, avec Pierre Mondy, en Napoléon, mais oui, dans « Le Guerre et paix » de Bondarchuk, ou encore dans « Le Guerre et paix » de King Vidor, avec Audrey Hepburn et Henry Fonda, musique signée de l'inattendu Nino Rota. De Marseillaise par Nino Rota dans la musique du film War and Peace de King Vidor, la bataille d'Austerlitz, ainsi évoquée en 1956. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier, j'en profite à temps que je vous tiens pour vous transmettre les salutations de José qui déménage bientôt parce que vous savez, avant il habitait vrai taudis, José. Et grâce à vous, il a trouvé cette semaine un bon appart.
Oh,
voilà.
Oh,
demain, qu'est-ce qu'on fait donc, dites-moi.
Je suis sans voix. Demain, les années 1806-1809, avec Mozart revu et corrigé, Paganini, Méhul, mais c'est également Édith Piaf et Serge Gainsbourg, figurez-vous.
Très bien, à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.